That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Regardez cette image, c'est la toute première fois que vous voyez un trou noir.
Rosetta, c'est le nom de cette sonde qui termine un voyage de 10 ans. L'engin de 32 mètres d'envergure va se mettre en orbite, sans doute en fin de matinée autour d'une comète, ce qui serait une première, et la sonde tentera d'y larguer un petit robot.
La tête dans les étoiles. Votre revue de presse en astronomie, une émission préparée, réalisée et présentée par Aurélien Housset.
Le robot Curiosity s'est posé sur Mars et part à l'attaque de la planète rouge.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Je suis ravi, vraiment ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission La tête dans les étoiles en ce mois de février 2025. Et oui déjà. Alors sachez qu'aujourd'hui nous poserons la question: est-ce qu'une nouvelle planète peut naître dans notre système solaire aujourd'hui? Nous parlerons des molécules organiques de Cérès, de la sonde Voyageur 2 qui économise son énergie, et puis nous parlerons de la température d'un trou noir. Mais sans plus tarder, eh bien, commençons cette nouvelle émission avec cette question: est-ce qu'une nouvelle planète pourrait-elle naître dans notre système solaire aujourd'hui ? Alors comme ça on siffle dans la tête dans les étoiles. Eh bien alors, est-ce qu'une nouvelle planète pourrait-elle naître dans le système solaire? Eh bien en réalité, chers amis, c'est très peu probable. La formation planétaire s'est déroulée dans les premiers millions d'années de notre système solaire, lorsqu'il consistait en fait à un disque de gaz et de poussière, affirme Laurette Piani, astrophysicienne à l'université de Lorraine, pour Science et Vie. Après environ 10 millions d'années, ce disque a disparu, ne laissant que des protoplanètes en train d'achever leur formation. Alors de nos jours, il faut savoir que tout un tas de petits corps se baladent encore, les comètes et les astéroïdes dans notre système solaire. Pourraient-ils s'agglomérer et former un planétoïde? Eh bien non, car ils sont bien trop dispersés maintenant pour cela. Et quand bien même, la masse totale de ce corps ne suffirait pas à en faire une planète. La ceinture d'astéroïdes, qui se situe entre Mars et Jupiter, ne représente que 3% de la masse de notre belle Lune, et la ceinture de Kuiper, environ 5% de celle de la Terre. Alors pour qu'une neuvième planète naisse, il faudrait donc compter sur un apport gigantesque de matière provenant d'au-delà de notre système solaire, sous la forme de poussière, voire, et oui ceci existe dans notre galaxie, une planète vagabonde. Mais là encore, les objets issus de l'espace interstellaire sont si peu nombreux à traverser notre système solaire que les probabilités qu'ils se rencontrent et forment une nouvelle planète sont quasi nul. Les molécules organiques sur Cérès semblent jeunes. Et oui, elles n'auraient pas passé plus de 10 millions d'années à sa surface. Détectées sur cette planète naine, on peut l'appeler comme ça, de la ceinture d'astéroïdes que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, située donc entre Mars et Jupiter et contenant un océan, ces molécules constituées de chaînes de carbone et d'hydrogène auraient pu servir à une chimie probiotique, c'est-à-dire avant la vie. En bombardant d'UV et de particules chargées des roches semblables à celles où elles ont été trouvées, afin de mimer les conditions de la ceinture d'astéroïdes, des scientifiques ont estimé leur âge. En extrapolant la dégradation observée, ils en ont déduit que les chaînes n'ont pas pu arriver en surface il y a plus de 10 millions d'années. C'est jeune, comparé aux 4,5 milliards d'années de Cérès. Alors d'où viennent ces molécules? Eh bien, peut-être sont-elles restées longtemps dans l'océan de Cérès avant d'être transportées vers la surface. Vous le voyez, il reste encore quelques questions sur les molécules de Cérès. Une autre petite information, toujours révélée par Science et Vie en décembre dernier. Je vais vous parler à présent de la sonde Voyageur 2. Eh bien, il faut savoir qu'elle a été lancée en 1977. La sonde Voyageur 2, qui vogue au-delà de l'héliosphère, à plus de 20 milliards de kilomètres de nous, est certes sur le déclin, à force, elle nous a apporté beaucoup d'informations, mais la NASA espère la faire encore fonctionner jusqu'en 2030. 2030, et oui, pour glaner encore quelques informations sur le lointain cosmique. Il a donc été décidé d'éteindre l'un de ses 5 instruments, en particulier le détecteur de plasma, pour économiser son énergie. La tête dans les étoiles. Chers amis, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission La tête dans les étoiles. Et c'était un morceau très sympathique, enfin personnellement coup de cœur, de Musi. Alors, comme annoncé, je vais à présent vous parler un petit peu des trous noirs. Et avec cette information révélée par Science et Ville au mois dernier, comme quoi, eh bien oui, deux étoiles peuvent tourner autour d'un trou noir. Nous sommes ici sur des questions d'astrophysique. Pardon. Alors, ce n'est pas une étoile qui tourne autour du trou noir V404 Cygni, mais deux. Et oui, c'est la première fois qu'un tel système ternaire est débusqué par les scientifiques. Alors, l'existence de celle qui dansait autour du monstre en 6,5 jours était déjà connue et les chercheurs avaient bien observé une étoile très lointaine sans se douter qu'elle était liée gravitationnellement aux deux autres. Et pour cause, sa révolution dure 70 000 ans. Alors les scientifiques ont pu découvrir, grâce aux données, ce fait-là grâce aux données récoltées par le satellite Gaïa. Ils y voient le mouvement des deux étoiles et il est exactement le même. Alors un fait est étonnant cependant, quand une étoile massive explose en supernova et donne naissance à un trou noir, l'énergie dégagée est telle que l'étoile éloignée aurait dû être expulsée. V404 Cygni n'aurait donc pas explosé mais implosé. Les scientifiques ne connaissent pas assez bien la physique de formation des trous noirs et cette découverte, en tout cas, va permettre d'y voir plus clair et d'aider à aller un petit peu plus loin dans toutes ces découvertes. Une virgule signée David Lynch pour lui rendre hommage, David Lynch qui nous a quittés le mois dernier. Alors, comment mesure-t-on la température d'une étoile? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, tout simplement, grâce à son rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire en fait la lumière que l'étoile émet, que l'on appelle aussi spectre d'émission. Alors, les astronomes mesurent cette donnée grâce à des télescopes munis d'un spectromètre. C'est un appareil capable de séparer la lumière d'un astre dans toutes ses longueurs d'onde, pour en évaluer tout simplement les intensités. Alors de quoi remonter à la température puisque la longueur d'onde où le rayonnement d'une étoile est le plus fort lui est inversement proportionnelle. Le spectre du Soleil montre par exemple qu'il rayonne le plus aux alentours de 514 nanomètres, ce qui correspond à une température de 5504 degrés. Bien sûr, cette technique n'est pas parfaite. On peut s'en douter. Mais déjà, elle permet de détecter que la température de surface d'un astre, ses profondeurs, reste accessible. Et elle devient la donnée de moins en moins fiable à mesure que les étoiles sont de plus en plus chaudes. Alors au-delà de 30 000 degrés, eh bien, les couches externes des étoiles sont en effet balayées de vents stellaires violents, faussant en fait toute tentative d'utilisation du spectre. Seems like I should have known better than to turn my head like it didn't matter. Why do I do the things I do? Surprise, me showing up, you thought I was working. Why do I do the things I do when I know I am losing you? Thought you'd be happy to see me, but you said what the hell are you doing? Calm down, you were so embarrassed. Seems like I should have known better than to turn my head like it didn't matter. Why do I do the things I do? When I know I am losing you. Chers amis, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission La Tête dans les Étoiles. Aurélien, pour vous accompagner encore durant quelques minutes. Allez, peut-être 5 minutes, grand max. Après, je vous libère. Alors, chers amis, pour terminer cette émission, une révélation d'une revue qu'on exploite beaucoup dans cette émission, Science et Vie. C'était le mois dernier, 3 découvertes récentes sur l'origine des météorites. Alors, il faut savoir que la plupart des 70 000 météorites connues sont issus de la ceinture principale, un gigantesque anneau constitué de milliards d'astéroïdes orbitant autour du Soleil entre Mars et Jupiter. En combinant analyse spectroscopique et simulation, eh bien une équipe internationale précise désormais leur origine. Alors il faut savoir que les météorites proviennent d'une poignée de familles. Plus de la moitié de ces astéroïdes de la ceinture appartiennent à des familles dont les membres résultent de la fragmentation d'un corps par an sous l'effet d'une collision. Ils présentent donc la même composition, chimique notamment, et partagent plusieurs paramètres orbitaux. Alors plusieurs dizaines de familles sont connues, mais en comparant les compositions des astéroïdes et des météorites, eh bien l'équipe de scientifiques a conclu que seules 3 d'entre elles, comme par exemple Carine, sont les sources de 70% des météorites retrouvées sur notre bonne planète. Les chondrites H, riches en fer, et L, est pauvre en fer. Alors il faut savoir aussi que les météorites ont été récemment formées. Donc j'évoquais par exemple la famille Carine, mais il y a aussi la famille Coronis II. Eh bien, donc des familles de météorites se sont formées lors de collisions il y a à peu près 5 à 8 millions d'années, c'est-à-dire très récemment vu l'âge de notre planète qui affiche 4,6 milliards d'années. La famille, par exemple, des météorites Massalia, elle est née de la fragmentation d'un corps par an de 100 km il y a 466 millions d'années. À l'époque, cet événement avait provoqué une pluie de météorites dont les poussières avaient fait baisser la température terrestre et provoqué une série d'extinctions. Mais les chondrites, elles, qui représentent 20% des chutes de météorites actuelles sur notre planète, seraient issues d'une collision secondaire à l'intérieur de cette famille, survenue il y a 40 millions d'années. Enfin, il faut savoir que les météorites les plus anciennes donnent des poussières. Les familles d'astéroïdes les plus anciennes sont majoritairement des chondrites carbonées. Si elles représentent 75% des astéroïdes de la ceinture principale, donc toujours cette ceinture située entre Mars et Jupiter, eh bien seulement près de 4% des chutes de météorites en proviennent. Les chondrites carbonées alimentent en revanche la population de géocroiseurs, ce sont ces astéroïdes de taille kilométrique qui, tels par exemple Bennu ou Ryugu, menacent la Terre en passant près de son orbite. Heureusement, leur composition les rend très friables et elles ont davantage tendance à former des micrométéorites ou de la poussière en traversant l'atmosphère. Eh bien, chers amis, c'est sur ces informations récentes, très récentes, sur les météorites que se referme ce numéro de votre émission La Tête dans les Étoiles. J'espère que ce numéro vous a plu, vous a apporté des informations intéressantes. Je vous remercie pour votre fidélité à ce rendez-vous mensuel. Nous nous quittons pour mieux nous retrouver, vous le savez, le mois prochain, même station, station radiophonique, station spatiale, pour de nouvelles informations dans les domaines de l'astrophysique et de l'astronomie. D'ici là, passez un bon mois de février. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut, salut. C'était La Tête dans les Étoiles, une émission préparée et présentée par Aurélien Hossé.